chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans l'émission Ensemble. Guy Wagner et à la technique Pierre Eckard. Aujourd'hui, nous recevons une nouvelle association que l'on appelle le CICAT, Centre d'information et de consultation en alcoolologie et en toxicomanie, avec la présence de Margot Coria et Lucie Gentilhomme. Ce sont des professionnels de cette association en tant qu'assistantes sociales et infirmières et elles vont nous présenter un peu à la fois l'organisation et à la fois leur métier au cours de cette émission. Je vous laisse la parole.
Eh bien bonjour, je suis Margot Coria, effectivement assistante sociale au CICAT. Je vais peut-être laisser ma collègue se présenter et j'expliquerai ensuite ce qu'est le CICAT.
Alors bonjour, moi c'est Lucie Gentilhomme, je suis infirmière au CICAT.
Alors le CICAT, c'est une association, hein, comme vous l'avez dit, qui existe depuis les années 80, donc on n'est pas tout jeune. Voilà. Et cette association gère une structure médico-sociale qu'on appelle un XAPA. Donc ça, c'est le sigle XAPA, ça veut dire Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. L'addictologie, c'est la science qui étudie les comportements de dépendance. Alors, nous traitons donc tout ce qui est dépendance à des substances telles que l'alcool, le tabac, qui sont des drogues légales, hein, faut bien dire ce qui est, ça a beau être des produits licites, ça reste des produits toxiques qui entraînent une dépendance. Et puis, il y a également les dépendances aux drogues et également nous prenons en charge les addictions sans drogue. C'est-à-dire des addictions comportementales telles que l'addiction aux jeux d'argent, les addictions, elles sont, bon, il y en a beaucoup, mais enfin bon, tout ce qui est dépendance affective et sexuelle, enfin bon, voilà. Je n'ai pas cité l'addiction, on parle beaucoup d'addiction aux écrans, aux jeux vidéo et tout ça chez les jeunes. Ce n'est pas reconnu comme étant une addiction à proprement parler. Ça va être plutôt tout ce qui touche aux jeux vidéo, aux écrans, les réseaux sociaux. On est dans des comportements qui peuvent être excessifs, qui peuvent conduire à des conséquences graves quand même pour des adolescents, parce qu'il peut y avoir de l'échec scolaire lié à un usage excessif du temps passé sur les écrans, hein, notamment des jeunes qui se couchent très tard, un manque de sommeil, et du coup des troubles de l'attention qui vont se développer, qui peuvent entraîner effectivement de l'échec scolaire, de l'absentéisme. Donc là, ça nécessite quand même de consulter, enfin de l'aide, quelquefois c'est nécessaire. Mais on n'est pas dans l'addiction à proprement parler, puisque ce sont des comportements qui vont être traités sur un plan plutôt éducatif. Voilà, donc je pense avoir présenté un petit peu. Nous sommes donc un XAPA généraliste et nous intervenons sur l'ensemble du département d'Eure-et-Loire avec un centre de consultation principal qui se trouve à Chartres. Et nous avons également une antenne à Dreux qui est ouverte tous les jours de la semaine du mardi au vendredi avec une équipe permanente. Et puis, il y a un autre centre de consultation à Châteaudun. Et nous avons des consultations de proximité un petit peu partout dans le département. Voilà.
Alors sur Dreux, on peut préciser que votre centre est installé Porte-Chartraine.
Rue Porte-Chartraine, on est juste à côté du Beffroi, en plein centre-ville, donc on est quand même très centralisé, bien, on va dire bien situé, on nous trouve facilement, même si ça reste un lieu très discret. Les gens qui viennent nous voir n'ont pas non plus envie d'être trop mise en...
en avant.
Voilà, c'est un centre, c'est pas écrit CICAT en gros, voilà, c'est un centre de soins et les gens viennent sans être stigmatisés.
Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur le CICAT à Dreux ? C'est qu'on est composé d'une équipe où il y a un médecin qui vient tous les mardis, qui fait également toutes les autres antennes. Il y a du coup une assistante sociale qui est ma collègue Margot Correa, deux psychologues qui sont là pratiquement tous les jours, sauf ma collègue qui est là du coup juste deux fois par semaine. Nous avons une secrétaire et une infirmière qui est là à temps plein sur Dreux.
Et l'infirmière, c'est vous ?
C'était moi, effectivement. Donc j'étais en remplacement en fait sur l'antenne de Dreux. Ma collègue est revenue. Donc c'est pour ça que je fais un mi-temps sur Dreux et sur l'antenne de Chartres, qui est une plus grosse antenne, du coup. Où là, il y a plusieurs assistantes sociales, des éducatrices. Il y a aussi également notre directeur. Il y a deux médecins. Donc il y a pratiquement un médecin tous les jours. Parce que notre file active est beaucoup plus importante qu'à Dreux. Et la particularité qu'on a à Chartres, c'est qu'il y a une unité méthadone qu'il n'y a pas à Dreux, puisque l'unité méthadone à Dreux est gérée par le XAPA hospitalier. Donc nous, à Chartres, on gère également l'unité méthadone. Donc l'unité méthadone, c'est le traitement de substitution aux opiacés. Donc ça nous permet en fait de délivrer ces produits aux personnes atteintes d'addiction du coup, aux opiacés.
Alors pour présenter les activités, puisqu'on voilà, on explique un petit peu ce qu'on fait au CICAT. Donc il y a les centres de consultation où les gens viennent généralement sur rendez-vous. Et là, nous les accueillons. On essaie d'évaluer quels sont leurs besoins et leurs demandes. Hein. On recueille leurs demandes. Et à partir de là, on voit si cette personne a plutôt besoin d'être orientée sur le médecin, plutôt sur la psychologue ou sur l'infirmière ou l'assistante sociale, puisque en fait notre prise en charge elle est globale. Le propre des addictions, c'est que c'est pas uniquement un problème somatique, c'est pas uniquement un problème médical. Il y a un versant à la fois physiologique, bien sûr, mais également un versant social et un versant psychologique. D'où cette prise en charge en équipe pluriprofessionnelle. Et donc, les gens qui viennent chez nous peuvent être accompagnés par plusieurs professionnels, voilà, en fonction des besoins exprimés. Mais ça peut être aussi simplement des consultations médicales. Il y a des gens qui viennent, qui voient uniquement le médecin, d'autres qui voient uniquement l'infirmière, puisque je vois par exemple des personnes qui viennent pour un sevrage tabagique, qui ont envie d'arrêter de fumer. Et ben on va plutôt orienter sur l'infirmière, parce que par ailleurs, voilà, l'infirmière, je te laisserai peut-être expliquer comment tu procèdes, hein, mais l'infirmière est tout à fait compétente pour prendre en charge l'aide au sevrage tabagique.
Totalement, effectivement. Alors, on fait aussi beaucoup de relais avec les consultations médicales, donc s'il y a besoin d'un suivi plus régulier, notamment au sevrage par rapport à l'alcool. On fait également aussi des points, parce que bon, voilà, le médecin est plutôt chargé. Donc ça nous arrive effectivement de faire des relais chaque semaine sur des personnes qui en auraient besoin. Et par rapport au tabac, donc, on peut prendre en charge l'addiction au tabac parce qu'on est habilité à prescrire des traitements de substitution nicotinique. Donc ça, c'est totalement dans nos compétences. Donc ça arrive effectivement que je ne vois les patients que pour ça et qu'ils ne voient que moi pour l'arrêt du tabac. Puisque je peux prescrire patch, gomme. Donc ça leur permet de ne voir qu'un seul professionnel et de vraiment libérer et soulager les consultations médicales.
Alors on parle de votre activité en tant qu'assistante sociale et infirmier, mais les patients qui arrivent, je suppose, parfois ont besoin d'une aide sociale, parce qu'ils tombent peut-être un peu dans la déchéance. Ça coûte très cher d'avoir du tabac, ça coûte très cher d'avoir de la drogue. Alors, comment vous agissez vis-à-vis de ces gens ?
Alors, c'est l'intérêt, effectivement, hein, de travailler en équipe pluridisciplinaire. Déjà, moi, je tiens à dire une chose, c'est que l'addiction, ça peut toucher n'importe quelle catégorie sociale.
N'importe quel âge ?
De n'importe quel âge, alors même si quand les gens arrivent chez nous, c'est généralement après la trentaine, mais là, je parle vraiment du soin. J'expliquerai peut-être après aussi qu'on a aussi des consultations pour les jeunes, mais pour des gens qui arrivent vraiment avec une addiction. Donc ça peut toucher tout le monde, voilà. Bah, si on parle de l'alcool, hein, il y a ce qu'on appelle aussi l'alcool mondain, c'est-à-dire que c'est tellement culturel chez nous, dans notre culture, il n'y a pas pratiquement pas une région de France où il n'y a pas du bon vin. Donc, et du coup, c'est fréquent quand même que des personnes abusent et sans petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte, et ben on s'aperçoit que certaines personnes ne peuvent plus se passer de leur verre d'alcool et donc peut tomber dans l'addiction. Mais les conséquences de l'addiction ne vont pas se manifester de la même façon selon qu'on a les moyens, je dirais, d'assumer financièrement ou même socialement cette addiction, ou qu'on est dans une situation fragile de précarité. Forcément, là, les conséquences sont beaucoup plus sévères. Je vais prendre un exemple que je rencontre quasi quotidiennement. Une personne qui travaille, qui a besoin de sa voiture pour se rendre à son travail et qui se fait contrôler avec une alcoolémie au volant. Il faut savoir que une alcoolémie positive au volant, c'est 6 points en moins sur le permis. Donc déjà, ça fait réfléchir. Mais malgré ça, bon, on a 12 points donc il en reste plus que 6, hein. Mais généralement, voilà, quand c'est juste le premier contrôle, ça se solde par une amende et 6 points en moins sur le permis. Mais quand il y a récidive d'alcool au volant, les tribunaux sont très sévères et généralement, il y a annulation du permis de conduire. Quelqu'un qui perd son permis de conduire, qui a pas d'autre moyen pour se rendre à son travail que de prendre sa voiture, eh bien, généralement, il perd son emploi. Et là, il y a une désescalade, en quelque sorte, une dégringolade qui s'opère et qui fait que si la famille est déjà un petit peu fragile, ça peut amener à des conséquences très graves, déjà de perte de revenus. Et puis, ça se solde aussi malheureusement bien souvent par des conflits familiaux, par des séparations. Enfin bon, voilà. Donc c'est pour ça que le rôle de l'assistante sociale dans ce cas-là, il va être en complément des autres professionnels qui vont travailler vraiment sur la sensibilisation de la personne pour l'aider à diminuer sa consommation. Moi, je vais intervenir pour aider cette personne à bénéficier de ses droits sociaux. S'il n'y a pas de complémentaire santé, je vais veiller à ce qu'elle puisse bénéficier d'une complémentaire santé pour pouvoir se soigner, éventuellement partir dans un centre de cure pour faire le sevrage et pouvoir apprendre à vivre sans alcool. Voilà, donc le rôle principal de l'assistante sociale, ça va vraiment être de veiller à ce que la personne puisse bénéficier de ses droits sociaux qui vont lui permettre de traverser une période difficile de sa vie. Voilà.
Et alors la personne, avant de venir chez vous, passe par son médecin ou vient directement chez vous?
Les gens peuvent venir directement
sans rendez-vous.
Sur rendez-vous, voilà.
Parce que ça doit être quand même assez difficile, la personne qui est dans cette situation. Si elle n'a pas un contact familial qui la pousse à venir chez vous,
oui,
d'elle-même, c'est pas du tout évident.
On
que ça
voit
se passe.
Assez souvent, hein, les personnes nous disent, je suis passée plusieurs fois devant la porte, c'est la première fois que j'ose rentrer, c'est très difficile. On le voit, hein, très souvent les premières fois où on sent que c'est compliqué parce qu'il faut se mettre à nu, faut parler un petit peu de sa vie, de pourquoi est-ce qu'il est là, de ce qu'il amène, des conséquences. Après, nous, faut savoir que c'est confidentiel et on respecte vraiment les choix de la personne. C'est-à-dire que si la personne a envie de rester anonyme, il n'y a pas de problème. On va essayer de l'aider au mieux. Mais voilà, on n'est pas du tout une structure où on force les personnes. Si déjà on voit que c'est dur pour elles de rentrer, si elles souhaitent garder l'anonymat, on respectera son choix sans problème.
Oui, ça c'est important. C'est important de garder son anomalie. Tout son passé, en fin de compte. La personne garde son passé. N'est pas obligé de l'expliquer, vous traitez la personne telle qu'elle se trouve devant vous.
Exactement.
Et ça, c'est vraiment une posture éthique que l'on a, c'est aussi de s'adapter au rythme de la personne. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu de temps pour se livrer, pour que la relation de confiance s'installe. On ne force pas les choses. Après, il est vrai que pour pouvoir accompagner au mieux la personne, plus la personne va se sentir en confiance et va se livrer, et mieux on pourra l'aider.
Oui.
Il y a des personnes, beaucoup de personnes qui viennent chez nous, ont quand même subi souvent des traumatismes. Et ces traumatismes, faut du temps des fois pour pouvoir en parler. Voilà, c'est d'où ce respect de l'autre et de son rythme. Et qu'est-ce qu'il est prêt à nous livrer ou pas? Généralement, quand on accueille la personne pour la première fois, c'est un entretien d'une heure. Bon, nous, on a un petit peu un questionnaire standard, un peu. On pose les mêmes questions un petit peu à tout le monde au départ. Voilà, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui l'a amené à venir nous voir, hein, comprendre ça, comprendre un petit peu. Alors vous disiez, oui, on questionne un petit peu sur l'histoire familiale, est-ce qu'il y a des antécédents d'addiction dans la famille, mais généralement au premier entretien, les gens ils disent, ils répondent de façon assez succincte, puis après on essaie de creuser, parce que déjà à ce premier entretien, on voit si c'est plutôt une orientation vers un psychologue ou si c'est plutôt vers le médecin. Quelle est la demande de la personne aussi? Est-ce que c'est pour une aide au sevrage tabagique? Est-ce que c'est pour une consommation de cannabis? Parce que nous accompagnons aussi les personnes qui consomment du cannabis. Est-ce que c'est une autre addiction? Et du fonction de ce que la personne nous amène comme information, on fait une sorte de diagnostic pour savoir qui serait le professionnel le plus compétent pour accompagner cette personne dans sa demande.
Après, ce qu'il est important de préciser, c'est qu'on peut aussi accompagner l'entourage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une addiction personnellement pour venir consulter au psychiatre. Ça se voit beaucoup, des familles, des mères, des femmes qui viennent nous voir parce qu'elles s'interrogent sur la consommation de leur mari, de leur cousin, de leur frère, de leur ami. Et on est aussi là pour répondre à leurs questions, pour les accompagner si besoin avec un suivi psychologique, s'ils en ressentent le besoin. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est gratuit, que ce soit pour l'entourage ou pour les personnes qui souhaitent consulter et avoir un suivi au psychiatre.
Tout à fait, oui.
Oui, c'est important. C'est un lieu de confiance, en fin de compte.
On essaye.
Hein,
oui,
c'est vrai.
Oui,
on essaye de mettre en confiance.
Oui, parce que moi j'ai eu l'occasion de vous rencontrer il y a quelque temps, pour un cas particulier qui était l'aide aux personnes en difficulté, dont la personne était tombée un peu en déchéance, hein, et que vous faisiez un dossier d'aide de cette personne.
D'aide alimentaire, oui,
d'aide
effectivement.
D'aide alimentaire, mais ça peut être d'autres aides aussi. Mais on voit que non seulement vous recevez la personne, mais aussi vous allez beaucoup plus loin et vous la mettez en contact avec des associations ou d'autres organismes qui leur permettent de se reconstruire, en fin de compte.
Tout à fait.
C'est quand même important.
Oui, oui, oui. Oui, on travaille notamment l'accompagnement social. On va orienter alors vers les structures qui font de l'hébergement social, parce que on travaille aussi avec les personnes qui sont à la rue. Et on sait très bien que les personnes qui sont sans domicile fixe, l'alcool, ça sert un petit peu d'anesthésiant pour supporter les conditions de vie difficiles dans lesquelles ils vivent. Donc, ça va être effectivement l'accompagnement vers le logement, l'accompagnement vers des associations caritatives, que ce soit pour l'aide alimentaire, les aides matérielles, vêtements, voilà.
Au final, c'est de l'aide à la réinsertion, tout
Et de
simplement.
l'aide à la réinsertion aussi.
Et puis on accompagne également, bon, plus sur Chartres, puisqu'il y a une collègue qui est dédiée spécialement, mais on fait également en détention. Il y a également une collègue qui va en détention et qui, du coup, suit des détenus pendant leur séjour et également après.
Elle intervient, cette collègue, notamment au centre de détention de Châteaudun. Et c'est vrai qu'elle aide à préparer la sortie. Quelqu'un qui sort de détention, pour pouvoir se réinsérer, c'est pas facile. Et donc, elle prépare déjà la sortie en orientant le détenu sortant vers les professionnels du SICAT. Et puis déjà en amont, à faire les demandes de logement, d'hébergement pour ces personnes-là.
Parce qu'en général, les personnes qui sont en prison ont peu d'addictions. Il n'y a pas d'alcool en général,
Il n'y a pas
peut-être le
d'alcool,
tabac,
mais le tabac, oui. Mais par contre, le cannabis
Le
circule
cannabis.
beaucoup en détention.
Oui, les drogues en général,
Oui.
peut-être.
Oui. Alors l'alcool, moins, c'est vrai que c'est moins facile de faire passer de l'alcool, mais certains anciens détenus nous ont raconté qu'il y en a qui réussissent à fabriquer à distiller des choses pour se procurer de l'alcool en détention. Donc c'est vous dire que l'addiction, c'est quelque chose. Quelqu'un qui est vraiment dépendant, addict, il cherchera par tous les moyens à se procurer sa substance.
Bah, disons que c'est pas qu'une question de volonté. Il y a aussi la dépendance physique et psychologique qu'il faut vraiment prendre en compte. Parce que souvent, on entend des personnes qu'on suit, ah bah oui, mais on me dit que si j'ai vraiment envie d'arrêter, j'arrête. C'est pas qu'une question de ça. Il y a besoin d'aide, il y a besoin d'un accompagnement beaucoup plus poussé, surtout dans certaines addictions. Donc, c'est important aussi de resituer les choses et ça peut déjà leur permettre de s'apaiser, de se dire bon, c'est pas de ma faute si j'y arrive pas, c'est juste parce que c'est dur.
Le temps passe vite, hein, puisque nous sommes presque arrivés à la fin du temps imparti pour cette partie de l'émission. Est-ce qu'on peut rappeler des numéros de téléphone, des adresses pour que éventuellement des personnes puissent venir vous contacter? Peut-être qu'il faudrait préciser les différentes antennes qui sont dans le département. On a parlé de Chartres, de Dreux, bien sûr. Mais est-ce qu'il en existe d'autres?
Alors, déjà, nous avons un site internet, hein, www.cicat.fr. Et sur notre site internet, déjà, on peut trouver toutes les informations sur voilà, comment nous contacter, comment nous travaillons, etc. Ensuite, les rendez-vous peuvent se prendre par téléphone, bien entendu. Nous avons une secrétaire qui est toujours très disponible pour répondre aux questions. Je vais vous donner le numéro de téléphone du SICAT de Dreux, vu que nous sommes à Dreux, là. Le 02 37 46 47 94. Voilà, après, à Chartres, nous avons également le secrétariat de Chartres qui peut aussi donner des informations au 02 37 28 19 22. Voilà, et puis sur notre site internet, vous aurez toutes ces informations-là.
Sinon, à Dreux, vous êtes ouvert tous les jours ?
Sauf le lundi, effectivement. On a un jour par semaine où on finit à 19h, donc c'est le mardi, pour permettre à toutes les personnes qui travaillent de pouvoir avoir un créneau pour venir nous voir. Mais effectivement, du mardi au vendredi, on est ouvert.
On va vous remercier d'être venu, nous rendre visite.
Merci à vous.
On va passer une musique qui correspond à votre choix.
Parfait.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, oh bébé. Oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit, tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.